Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24 à 7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
L'année 2026 marque un jalon historique majeur avec 40 ans de CUTFM et Pot-Pourri Show. Une année avec des événements, des colloques, des débats, des rencontres littéraires, des concerts et des émissions directes sur les campus et chez nos partenaires de toujours. Des moments privilégiés pour célébrer l'histoire et l'avenir de CUTFM et de Pot-Pourri Show. Si vous souhaitez participer à nos événements tout au long de 2026, veuillez nous écrire à potpourri@cut.fm.
De 11h à 13h, Pot-Pourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre délivre et livre délivre de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur CUT 89,5 FM et Pot-Pourri Show. Le printemps est enfin arrivé et avec lui des offres incroyables dans le cadre de notre 40e anniversaire. Chaque dimanche, toute l'équipe de la radio vous propose une programmation exceptionnelle. Vous y découvrirez d'autres points de vue sur le monde et plus de récits captivants provenant des pays de la francophonie. Ce printemps, faites-le plein d'énergie chez nous grâce à nos DJ médias partenaires. Inscrivez-vous et devenez membre lors de notre campagne de financement du printemps. www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas de mentionner votre émission préférée, Pot-Pourri Show. Pour en savoir plus sur nos règles de diffusion en ligne, notamment sur le rattrapage ou la disponibilité de nos émissions à l'extérieur du Canada, ou pour toute autre question sur nos offres de partenariat, veuillez nous écrire à potpourri@cut.fm ou consulter notre site web potpourrishow.com. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon printemps. Aussi dans cette émission, c'était la grande nouvelle de la semaine qui a tenu la planète en haleine. Céline Dion est de retour sur scène à Paris pour 10 shows exceptionnels. Tout au long du printemps, découvrez l'histoire et les secrets de cette icône et femme de cœur. Rendez-vous, madame, monsieur, chaque dimanche, en compagnie des journalistes et des DJ du Québec et de France. Et courez la chance de gagner une paire de billets à un des 10 concerts à Paris. Céline Dion, la diva, est de retour. À l'heure des grands bouleversements et de la mondialisation, et où l'intelligence artificielle s'intègre dans notre quotidien, il est urgent de promouvoir une compréhension citoyenne sur l'actualité nationale et internationale de la semaine. Bienvenue sur CUTFM, votre radio à 100% financée par les auditeurs, les étudiants, les organismes communautaires francophones du Grand Toronto. À votre tour, devenez membre de notre radio. Faites un don en ligne à Pot-Pourri Show. Aidez-nous à garder l'antenne. Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité de notre planète. Des entretiens en tête-à-tête, sans concession, avec des artistes, des humoristes, des linguistes, des écrivains, des voix alternatives, des activistes, celles et ceux qui façonnent notre monde. Chaque semaine, nos chroniqueurs passent en revue les unes de la presse canadienne et étrangère, les podcasts, ainsi que les débats et les événements qui ont fait le buzz sur la toile. Popourri Show, sur CUT 89,5 FM, en partenariat avec RFI France 24, vous accompagne depuis 40 ans. Merci d'être là.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous passez la semaine à Paris, hein, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est en partenariat avec l'OIF. Et bien évidemment, notre radio, RFI, c'est ici un vecteur important de diffusion, d'apprentissage de la langue française. On va parler de tout ça avec vous à travers vos actions. Rapidement, les clubs RFI, ça existe depuis 22 ans. Il y en a 110 qui sont francophones, une cinquantaine anglophones, 97 000 membres environ. Ça fait beaucoup de monde qui se rencontrent, qui se connaissent, qui agissent aussi, qui portent des actions, des engagements via Radio France Internationale. On parlera de toutes ces actions un peu plus en détail tout à l'heure. Mais d'abord, moi, j'aimerais vous poser une question. Un club RFI, si vous deviez me donner un mot-clé, qu'est-ce que c'est pour vous ? On va commencer par vous, Alain Bachizi.
Un mot-clé, pour moi, le club RFI, c'est la communauté.
La communauté. Vous, Stanislas ?
Oui, c'est la communauté des auditeurs RFI engagés pour la transmission des valeurs francophones.
Gilbert ?
Cadre de rencontre par excellence pour la promotion de la culture francophone et langue française.
Ouais, alors c'est un peu plus qu'un mot-clé, mais on va un peu dérouler tout ça tout à l'heure. Et puis, Zachary, comment vous voyez-vous un club RFI ? Qu'est-ce que c'est pour vous ?
Un club RFI, c'est un ensemble des auditeurs et de la communauté, comme l'a dit Alain, qui sont engagés pour transmettre des valeurs francophones et la promotion de la langue française.
On s'attendrait à ce que le commissariat aux langues officielles comprenne le sens des mots dans les deux langues officielles. On a compris que ce n'était peut-être pas le cas vendredi quand le commissariat a publié une publicité se voulant humoristique en prévision de la Saint-Valentin. Voici ce que donne la version anglaise de cette publicité, notamment transmise sur les réseaux sociaux. Ça dit « My tail starts wagging and my heart is all aflutter when you practice your second official language. » Donc, ça m'excite, je trouve ça intéressant quand tu pratique ta deuxième langue officielle. Et c'est traduit en français de la façon suivante.
Arrêtez. La façon suivante.
Allez-y, on est suspendu à vos lèvres.
Non, c'est nos effets spéciaux mordus, ça. C'est bon,
ma queue et mon cœur s'emballent quand tu t'exerces à parler ta deuxième langue officielle. Alors, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que queue a une connotation évidemment sexuelle. Ça a suscité une controverse, ça a été retiré. Dimitri, vous avez participé à la controverse, je pense, en commentant largement en fin de semaine sur les réseaux sociaux. En tour de table, qu'est-ce que vous pensez de cette boulette du commissariat aux langues officielles? Dimitri.
Mais premièrement, j'ai toujours de la misère à m'absenter de toute controverse. Donc oui, j'étais là. mais il y avait aussi le ministre du patrimoine, Mark Miller, qui est intervenu pour dire quand même trop c'est trop. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, c'est pas le texte en français qui me dérange. Parce que si le texte en anglais aurait été complètement différent, ça veut dire que réellement, ils voulaient jouer avec les mots. Mais ce que ça démontre, tout ça, c'est qu'ils ont écrit quelque chose en anglais. Ils ont mis ça dans Google Translate ou ChatGPT. La réponse est sortie. Ils ont fait un copier-coller, puis ils ont fait ça en français. Et là, si ça vient du ministère Pêche et Océan, Revenu national, mais là, ça vient du bureau de la commissaire des langues officielles du Canada. Langues officielles qui, d'abord et avant tout, doivent être beaucoup plus sensibles à la langue fondatrice du Canada, le français. Pourquoi? Parce que je le dis très souvent, comme Gilles Duceppe disait, à Ottawa, il y a deux langues officielles, l'anglais et la traduction simultanée. Donc, quelle perte de crédibilité pour le bureau de l'Office de la langue, de la commissaire aux langues officielles. Maintenant, tout le monde sait que ce bureau-là fonctionne en anglais et Google Translate.
Et qu'on traduit de façon un peu bancale. Françoise.
Je suis d'accord avec toi, Dimitri, dans le sens que c'est ce qui m'a frappé de plein fouet. Puis moi, j'ai joué l'imbécile un peu, alors parce que je voulais voir comment les gens l'avaient compris. Donc moi, sur mon Facebook, j'ai écrit « je dois être tarte », mais je la comprends pas. Alors j'ai eu mon éducation sexuelle qui a été faite en deux temps, trois mouvements. Mais je suis arrivée à la même conclusion. Par contre, en parlant à certains amis fonctionnaires, parce que mon réflexe premier, c'était de dire hey, « je peux pas croire qu'au bureau du commissaire aux langues officielles, on commence une publicité en la préparant en anglais, comme ils font dans plein d'autres ministères où tout est fait en anglais, puis après ça, on pense à aller vers les traducteurs. » Et petite parenthèse et petit bémol à tous ces hauts fonctionnaires qui pensent qu'on peut remplacer des traducteurs, des vrais traducteurs, par des outils comme l'intelligence artificielle ou ben des traducteurs automatiques, informatiques ou appelez-les comme vous voulez, à être capable de trouver une nuance sur un jeu de mots pour essayer de trouver quelque chose de particulier dans une autre langue. C'est pas un logiciel qui va faire ça. Je ferme cette parenthèse. Et moi, ce qu'on m'a dit par rapport au commissaire aux langues officielles, le problème, c'est pas tellement le commissaire aux langues officielles. Il ne se fera plus jamais reprendre avec ça. Le problème, c'est les communications. C'est le service de communication. Ceux qui préparent toutes ces affaires-là pour les différents ministères, ben, leçon à vous, laissez pas porter tout l'odieux de cette histoire sur le bureau du commissaire, malgré qu'ils auraient dû avoir le dernier mot, faire les vérifications, s'assurer que c'est pas le résultat qu'on a devant nous. Ouais. Mais c'est une leçon aussi pour ceux qui préparent toutes les communications gouvernementales. Ouais. Moi, ça me met de très mauvaise humeur.
Oui, mais engager peut-être des Québécois dans vos services de communication. Là. Ouais, bah. OK, en une minute chacun, Jean-François et Michel. Jean-François.
Bon, on se souvient comment les parcs nationaux fédéraux avaient leur publicité pour les plaines d'Abraham. Laissez-vous conquérir. Laissez-vous conquérir. Ça, c'était pas une traduction. Il y a quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée.
Drôle.
Ensuite, M. Carney l'a lu, puis il a dit « Ah, je vais faire un discours. »
Hey, c'est ça. Bon, ça.
Mais écoutez, je veux dire, moi, j'ai pas vu là de témoignages sur comment ça a été fait. Peut-être que l'anglophone bilingue ou le Québécois ou le franco-ontarien qui a préparé a dit « Écoutez, jamais on ferait ça au Canada anglais, mais les Québécois ont une culture de la tolérance qui est beaucoup plus large.
Le sens de le mot.
Et peut-être que l'emploi du mot « que » dans un jeu de mots, ça va passer au Québec. Peut-être qu'ils essayaient de nous faire une fleur. On ne sait pas. Il faut aller au bout de ça. Il faut interviewer tous les intervenants.
Enquête. Vous voulez une... Jean-François Lisée réclame une enquête. D'accord. Michel, en conclusion.
Inacceptable en 2026. Je ne peux pas croire. Je peux pas croire qu'on en est encore là, puis j'approuve totalement ce que Françoise a dit. Ça prend des traducteurs, et je suis convaincue qu'il y en a quelque part, des traducteurs. Est-ce que c'est ça qu'on coupe actuellement au gouvernement fédéral, les traducteurs? C'est inacceptable qu'on soit encore en train de parler de bévue de la sorte au gouvernement fédéral. Et c'est le commissariat...
Rappelez-vous de bâtir Maison au Canada.
Bâtir Maison.
Exactement.
C'est tout ça.
Lever la main haute.
Et qu'est-ce que ça va prendre pour changer ça? Sincèrement, c'est décourageant. Complètement décourageant.
Quelques secondes, Dimitri.
Je suis tellement ailleurs. Non, ça ne prend pas des traducteurs. Parce que ça s'appelle avoir des francophones de service. Ça prend des Québécois et des francophones dans des positions d'autorité. C'était pas une pièce de traduire un rapport de l'anglais vers le français. Ça prend des traducteurs. Ça prend des gens. Je vais vous dire, campagne électorale de 2011, le slogan était Stand Up for Canada. En français, c'était Le Québec prend des forces. Ça prend des gens qui sont dans une position d'autorité, qui comprennent la grande différence entre la réalité franco-canadienne et la réalité québécoise. Donc, ma suggestion, mon cœur s'emballe et je frétille de joie quand tu pratiques ta deuxième langue officielle.
Oh, tu frétilles. Ben, coudonc. Oui. Well said, well said.
On vous engage, Dimitri.
Quand tu as voulu qu'on reçoive une femme de lettres romancière franco-sénégalaise, c'est un très, très, très grand écrivain qui s'appelle Fatou Diom, qui a écrit « Aucune nuit de Serein Noir, c'est son dernier roman. Mm-hmm. C'est quelqu'un d'extrêmement important pour toi. Vous avez évidemment l'Afrique en commun. Voici donc Fatoudium.
Embrassé avant, dans la loge.
En vrai,
ouais.
Je suis content de vous rencontrer.
C'est ton
plaisir. Que vous avez un parcours, un destin tout à fait extraordinaire. Alors, dans votre dernier roman, Aucune île ne sera noire, vous rendez hommage à vos grands-parents et à votre grand-père.
Tout à fait.
Quel homme de votre vie?
Mon amoureux, mon ange gardien, mon Gabriel, mon guide. Donc, voilà, il m'a guidé jusqu'à vous en France, parce qu'il était ouvert.
Qu'est-ce qui vous a appris?
Mon grand-père, il m'a dit, quel que soit le port, donc des marins, sur tous les ports du monde, si tu regardes bien, tu trouveras les tiens, et vice-versa. Donc j'ai appris à regarder, et il avait raison, parce que partout où l'on est, il y a toujours des gens pour nous accueillir, pour nous faire une petite place, pour nous aimer, nous réconforter. Il me l'avait promis, je ne pouvais pas y croire parce que j'étais trop jeune, et bien maintenant on me l'a prouvé en France. Malgré ma belle-mère alsacienne.
Oui, parce que...
Il faut toujours qu'elle ait sa claque, elle.
Car votre vie passe par Strasbourg.
Oui.
Vous avez été universitaire, professeur, enseignante.
En fait, elle passe pas seulement, elle reste. J'habite à Strasbourg.
Vous êtes maintenant à Strasbourg.
C'est ma ville préférée de France. Et puis que les Parisiens et les Marseillais soient tous jaloux. Donc Strasbourg, c'est magnifique. J'y suis, j'y reste. Quoi qu'il arrive, mes amours sont définitifs.
Oui. Et alors, parlez-moi du Sénégal, de ce pays incroyable qui fascine.
C'est son pays aussi.
Ben bien sûr, vous avez ça en commun.
Donc, Clémentine, c'est un honneur de l'avoir deux fois comme compatriote, n'est-ce pas, ma sœur? Et on se ressemble tellement.
Ouais.
Donc, ça se voit. Et c'est pour tout ça que je l'aime, parce que, voilà, Clémentine, c'est une rebelle. Quand je pense au Sénégal et je pense à elle, il y a cette lumière d'Afrique en elle aussi. Donc, je ne sais pas comment vous parler du Sénégal. Si je commence par mon île natale, Niodior. Donc, c'est un bras de mer de l'océan Atlantique, dans le Saloum. J'ai grandi sur cette petite île et ma soif du monde est née sur cette petite île. Donc, c'est l'enfance, les grands-parents pêcheurs, marins pêcheurs, et c'est l'université de Dakar. Et forcément, Senghor, qu'on a tellement étudié, il faut surtout retenir son humanisme à lui.
Alors il vous a appris beaucoup de choses, votre grand-père. Je vous ai lu et vous dites, il était assez philosophe, votre grand-père. Il disait, tomber n'empêche pas de poursuivre sa route.
Oui.
Il dit, ce sont les moments de fragilité qui nous permettent de prouver notre courage. Oui. Et vous dites, là où règne l'amour, le ridicule ne tue jamais.
Non. Non, parce que, par exemple, là-bas, les gens sont très pudiques. Et moi, mes grands-parents, dans mon souvenir, je les ai toujours embrassés. Et il y avait toujours quelqu'un pour dire oh, « arrête de faire l'enfant ». Parce que même à 20 ans, 30, 40, je continuais à me jeter dans leurs bras. Et ce ridicule-là ne peut pas me tuer parce qu'ils avaient toujours ce regard plein de bienveillance. Et je faisais le pitre pour les amuser, surtout la veille de mes départs. On savait que la tristesse de la séparation allait venir, mais on ne voulait pas lui laisser la place. Donc je faisais vraiment le pitre. Et mon grand-père, dupe de rien, il le savait très bien que j'étais en train de rire pour pas pleurer. Et c'était pareil le matin quand je devais partir, on versait l'eau devant le pas de la maison. Une fois qu'on a traversé cette ligne d'eau, on ne peut plus se retourner. Donc je faisais ma folle, mais j'avais sa main dans le dos qui me calmait. Parce qu'il savait très bien que c'était une manière de cacher la tristesse.
Vous avez aimé enseigner?
J'ai beaucoup aimé ça et ça me manque. J'étais chargée de cours. Pas au grade de professeur, pas encore. J'apprenais, j'étais encore à ma thèse. Donc j'étais chargée de cours à l'université de Strasbourg, Marc Bloch à l'époque, et puis à la PEHA de Karlsruhe, l'Institut supérieur de pédagogie de Karlsruhe. J'ai beaucoup aimé enseigner, j'avais juste l'impression de partager ce qu'on m'avait donné avec les petits frères, les petites sœurs. Ce sont des moments qui me manquent encore maintenant.
Vous écriviez à 13 ans?
Oui.
C'est fou ça.
Mais j'écrivais des choses intelligibles seulement pour moi-même. Donc à l'époque, je n'avais pas encore mangé tout le Grévis. Et non, j'écrivais pour mettre des choses sur le papier que des adultes parfois ne voulaient pas entendre. Parce qu'il n'y a pas mieux que les adultes pour détourner le regard. Donc j'écrivais pour régler des comptes parfois sans recevoir de cloques.
Vous étiez passionné de la littérature francophone très tôt. Hein.
Oui, très jeune.
Qui, par exemple, qui?
Ah, La Faute à Saint-Exupéry. Donc, Le Petit Prince, évidemment, c'est le premier livre que j'ai acheté de mes propres deniers. Et après, quand j'ai grandi un peu, je lisais Le Vieil Homme et la Mer, Hemingway. Donc, résultat, 30 ans plus tard, j'ai rendu un hommage à Hemingway et mon grand-père. C'est Le Vieil Homme sur la barque. Celui-là, je l'ai bien vu, c'était mon grand-père. Donc, c'était une manière de rendre hommage.
Alors, dans un livre de Catherine Sellac, que vous avez reçu, vous donnez votre définition du féminisme.
Oui.
Vous dites vouloir les mêmes droits pour mes sœurs et pour mes frères.
Oui. Où qu'ils soient, où qu'elles soient. Oui, parce qu'une baffe dans la figure, c'est pareil à Tokyo, à Dakar comme à Paris. Donc, une femme reste une femme. Où qu'elle soit, sa fragilité me touche. Mais vous inquiétez pas, hein, si un homme est victime de coups de casserole, je le défendrai aussi. C'est juste qu'ils sont rarement les victimes.
Pour mes sœurs et pour mes frères, dites-vous.
Aussi, parce que j'ai ma fratrie, elle est presque à part égale. Autant de garçons que de filles quasiment. Et je suis l'aînée. Donc je ne peux pas défendre mes sœurs au détriment de mes frères. Et je ne peux pas accepter une suprématie de mes frères au détriment de mes sœurs. Donc cette égalité-là, c'est un respect mutuel. Pour moi, le féminisme s'inscrit dans l'humanisme. Mmh. C'est l'être humain que nous défendons et ses droits.
Mmh. Je te laisse la parole parce que je
sais
que...
Alors en fait, je vais te dire la vérité. En fait, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Oui. Moi, j'ai un fils aîné... Mes trois fils, de toute façon, sont imprimés par l'Afrique, de toute façon. Mon fils aîné est un Diallo, Abraham Métis, son papa, Henri Diallo. Et je voulais rencontrer Fatou parce que c'est marrant, c'est pour retrouver quelqu'un qu'en fait tu connais sans l'avoir vraiment rencontré. D'abord, moi j'adore votre voix. Vous avez une voix dans laquelle il y a quelque chose de je ne sais pas comment expliquer ça, c'est organique. Parce que vous avez la voix d'une blues woman. Merci. Et puis avec une joie d'enfant. J'adore votre rire. Vous faites comme ça. J'adore. Hier, on vous regardait avec maman dans plein de vidéos. J'ai regardé beaucoup. Donc en fait, pour moi, je retrouve quelqu'un quand je vous vois. Je retrouve quelqu'un. Parce que vous êtes comme un feu, et moi j'ai besoin de vos flammes. C'est ce que j'ai pensé tout à l'heure dans la loge. Alors, je vais pas mettre à pleurer parce qu'on va pas pleurer, mais vous êtes, j'ai besoin moi de rencontrer des êtres comme vous parce que vous avez une lumière absolument. Vous êtes comme une espèce de trésor quand vous parlez, si vous voulez. Vous concernez tout le monde. Vous le savez, ça, vous?
Mais non. Moi, je vais pleurer. Je vais...
Ah non, non.
Je suis toute rouge maintenant, vous le voyez?
Ah non, pas du tout.
Et moi, je vais vous rendre le compliment parce qu'il est très ancien, le mien. Vous avez donné un des meilleurs baisers à notre humanité. Oh. À l'époque... Ah. Si, je ne suis pas la seule à m'en souvenir. C'était à une époque où les gens... ne voulait même pas toucher la main de quelqu'un de séropositif.
Oui.
J'étais devant ma télé, madame. Parce que là, je ne dis pas Clémentine, je dis madame.
Quand elle a embrassé.
Exactement. Et ce jour-là, c'est une grande dame que j'ai vue dire, moi, j'ose. Et je regarde cet humain en face et je ne vois pas une maladie. Je vois un être humain. Et je l'accepte. Moi, je vous ai regardé et j'en avais les larmes aux yeux. Alors, je vais vous dire, quand j'ai reçu votre invitation... Pardon, monsieur Drucker. Mais j'ai dit à la dame qui m'a donné l'invitation, j'ai dit, il faut dire à madame Célérier qu'avec ou sans émission, j'accepte. Parce que c'est un honneur de rencontrer quelqu'un qui ose lutter, qui a la colonne vertébrale, comme ça, qui assume ce qu'elle décide de faire. Et à cette époque-là, embrasser quelqu'un de séropositif, je vous garantis que vous n'étiez peut-être pas des dizaines à oser le faire. Et vous l'avez fait. Et moi, depuis ce jour-là, vous avez une place particulière dans mon esprit. Je vous regarde comme une grande sœur rebelle. Donc je n'ai pas de mérite, je n'ai qu'à suivre vos traces.
Vous auriez fait la même chose que moi.
Merci beaucoup.
Merci, mais c'est rassurant de vous voir. Il y a des êtres comme ça. quand on les voit, on est rassuré sur le monde. Vous voyez, surtout en ce moment, parce qu'il y a des moments où vraiment, on est tous forcément, inquiets. Et parce que c'est notre humanité, quoi. Tout est là-dedans, en fait. Tout est. Et c'est, voilà, merci d'avoir accepté.
Encore un petit mot. Le ventre de l'Atlantique, vous avez une notoriété internationale, hein. Et ce livre racontait les rêves d'immigration des jeunes Sénégalais vers la France.
Tout à fait.
C'est ce qui vous a fait connaître dans une grande partie du monde, hein, ce livre.
Oui, et alors, et je titille toujours, parce que quand je l'écris, on me dit, ah, t'as connu l'immigration. Non, moi je n'ai pas connu l'immigration. Moi je suis venue accrochée au bras de Cupidon, une vraie princesse. Donc je suis arrivée avec le sourire et les bons papiers, bien comme il faut. Si j'ai lutté pour les papiers, c'était pour avoir la nationalité et passer la grègue et être pleinement prof de français. Donc c'est en cela que j'ai pu découvrir en fait le combat pour les papiers, pour les étrangers. Et c'est ensuite quand le Cupidon s'est carapaté, pardon de dire ça, donc il est parti comme une éclipse. Et là j'ai découvert la nuit noire de l'immigration.
C'est l'époque de Strasbourg.
Ça. Exactement. Donc là j'ai découvert c'était quoi. Je me découvrais étrangère après 2 ans de vie en France.
Et après cette rupture douloureuse, vous en avez bavé.
Oui, pendant 8 ans.
Pendant 8 ans.
Femme de ménage. En fait, maintenant, c'est juste plus cher, mais je suis excellente pour ce sujet-là aussi.
C'était très honoré, très flatté que vous soyez venu grâce à Clémentine Sélarié. Je vous en applaudir, Fatou Diop.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Visite CIUT.FM and click Donate Now.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CIUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de $100,000 en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Come on, baby, say come on. We know we can't get enough. Let's go.
Aussi dans cette émission, c'était la grande nouvelle de la semaine qui a tenu la planète en haleine. Céline Dion est de retour sur scène à Paris pour 10 shows exceptionnels. Tout au long du printemps, découvrez l'histoire et les secrets de cette icône et femme de cœur. Rendez-vous, madame, monsieur, chaque dimanche en compagnie des journalistes et des DJ du Québec et de France. Et courez la chance de gagner une paire de billets à un des 10 concerts à Paris. Céline Dion, la diva, est de retour.
Thank you. Et alors figurez-vous qu'hier, c'était l'anniversaire de Céline Dion. Elle a officialisé à cette occasion son grand retour sur scène avec une série de concerts à Paris. Un choix qui dépasse le simple événement musical. Derrière cette annonce, il y a une transformation du spectacle vivant avec l'essor des résidences, la concurrence accrue entre grandes capitales pour accueillir ces shows qui sont de véritables méga événements. Et c'est ce que vous organisez, Arnaud Merceman. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes président d'AEG Présence France. Peut-être quelques mots sur cette société.
Oui, on est une multinationale de concerts américaine basée à Los Angeles qui organisons à la fois des concerts qui vont de groupes de Taylor Swift à Céline Dion, à Justin Bieber, aux Rolling Stones, etc. Des festivals, le plus connu Coachella dans le désert californien et en France, We Love Green et Rock en Seine. Et aussi, on est gestionnaire de salles, donc notamment à Paris, l'Accor Arena, l'Adidas Arena, à Londres, le O2, le Crypto.com à Los Angeles, etc. etc.
Ouais, pour donner des chiffres, l'Accor Arena, c'est 33 000 personnes, c'est la jauge la plus importante, on peut un peu la modifier.
Alors, l'Accor Arena, non, c'est 15 000, c'est la Défense Arena qui fait 33 000 personnes. Oui, exactement.
La Défense Arena et 33 000 personnes, c'est la salle couverte la plus importante de France.
Oui, c'est la même d'Europe, c'est la plus grande salle couverte d'Europe, 33 000 personnes en jauge assise et plus de 40 000 personnes en jauge debout.
Et alors c'est pour ça que vous avez, ou plutôt que Céline Dion a retenu Paris pour cette tournée.
Oui, ça fait partie des plus grands équipements culturels européens, comme je vous le disais. Donc en termes d'installation pour une résidence, c'était là où c'était le plus intéressant pour elle. Après, il y a un aspect affectif aussi. Céline Dion a une longue histoire avec la France. Il y a eu des dates annulées en 2023. Elle souhaitait revenir. Donc c'est un peu un mélange des deux. Ouais. Mais c'est vrai que l'équipement culturel a beaucoup joué.
Oui, parce qu'elle a des problèmes de santé. On écoute d'ailleurs le message qu'elle a adressé hier, qui a été déjà vu 4 millions de fois en France.
Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidé d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre support. Vous me manquez beaucoup. Eh bien, tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre.
La voix donc de Céline Dion. Arnaud Merceman, vous êtes président d'AEG Présente France, une multinationale qui donc organise ces concerts. Au-delà de son choix, on observe un certain nombre d'évolutions dans justement ces méga concerts.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a le phénomène même des méga concerts où les artistes partent sur la route pour proposer des shows de son et lumière gigantesques pour essayer de se démarquer les uns des autres, étant donné que le seul revenu désormais reste sur le live et qu'il y a énormément de concurrence, donc il faut proposer un spectacle encore plus exceptionnel que l'autre artiste. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième phénomène qu'on voit, et notamment c'est ce qui se passe avec Céline Dion à Paris, qui a pu se passer avec Adèle à Munich ou Harry Styles notamment en ce moment aussi, c'est le phénomène des résidences, où un artiste va s'installer dans une ville, faire une série de shows et externaliser en fait le coût de la tournée sur le public. Et c'est le public qui va voyager désormais et c'est pas l'artiste. Ça a plusieurs avantages, notamment on monte la production une fois, on ne la démonte pas, on reste en place, on ne paie pas les voyages et ça permet aussi de multiplier les retours des gens qui vont venir à une, deux, trois dates d'affilée et permet de remplir plus facilement.
Oui, ce sont des productions énormes.
Oui, c'est des productions énormes. Typiquement, une production pour la Défense Arena, ça peut monter à 50-60 semi-remorques et plus de 300 personnes qui travaillent sur ce concert.
Mais alors, pourquoi, qu'est-ce que vous vous déplacez dans 50-60 semi-remorques?
Oh, la lumière, le son, la vidéo, etc., etc., les éléments du décor. Je veux dire, quand par exemple, Taylor Swift, les dates que j'avais fait en 2022, c'était ça, on était sur une soixantaine de semi-remorques. Mais il y a absolument tout dedans, à la fois le catering pour préparer à manger, la scène, des éléments vidéo gigantesques, grotesques, des éléments de décor, etc., etc.
Alors, Taylor Swift, par exemple, vous étiez monté, je crois, jusqu'à 44 000 oui. personnes à l'Accor Arena Défense. Mais alors, justement, on l'avait dit responsable de la relance d'un certain nombre d'économies. Ça attire autant de monde, il y a autant de retombées sur ce type de méga-concert ?
Oui, 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 on le voit, il y a les gens, bon, déjà la population locale, mais surtout le tourisme musical qui se développe d'autant plus avec ces résidences, où les gens vont venir pour passer un week-end ou passer une semaine de vacances autour de cet événement musical. Le plus récent, là, c'est Radiohead qui a fait une tournée européenne, qui n'a choisi que 5 ou 6 pays, qui s'installait 4 soirs par pays, et la majorité des gens voyageaient personnellement. Moi, je suis allé voir à Copenhague, j'en ai profité pour passer un week-end à Copenhague, et je sais que c'est quelque chose qui se reproduit un peu partout.
Il y a énormément de groupes ou de chanteurs, chanteuses qui peuvent susciter de tels engouements. Je crois qu'on a un goût commun pour LCD Sound System, oui. par exemple. Alors eux, donc groupe probablement plus discret, en tout cas, qui attire moins de personnes. Est-ce que là, ça peut susciter...
Bien sûr, mais c'est ce qu'ils font LCD Sound System aux États-Unis, où c'est un territoire sur lequel ils ont un peu plus d'audience, fait sa résidence annuelle à New York City dans une salle différente, parce que c'est son chez-lui à James Murphy, et il met une vingtaine de dates à New York City. Là, ils viennent d'en mettre 5-6 à Chicago, etc. C'est vraiment un phénomène qui se répercute un peu sur tous les niveaux de groupe. Quoi.
Alors, au niveau de l'argent, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on connaît d'ailleurs les places, le prix des places? Beaucoup de fébrilité dans l'équipe des matins pour le prix des places du concert de Céline Dion.
Oui, on est de 80 euros pour les places les moins chères jusqu'à 270 euros pour les places en bord de scène.
L'économie de ces grands concerts, est-ce qu'elle suppose des bénéfices importants? Comment ça se passe?
Alors, forcément, on y retrouve notre compte, sinon on le ferait pas. On n'est pas dans la philanthropie pure. Mais c'est quand même beaucoup de risques à ce niveau-là. C'est des remplissages qui demandent à être proche du complet pour pouvoir arriver à bénéficier d'une marge. Et on marge à très peu. On marge aux alentours de 2-3%, qui sont des marges assez ridicules. Donc c'est aussi un travail de volume, en fait, où il faut faire énormément de groupes pour pouvoir gagner sa vie.
Ça veut dire que les cachets des artistes sont gigantesques?
Oui, le cachet des artistes sont gigantesques, mais tout est lié, en fait. Comme je vous le disais, encore une fois, une production comme une Taylor Swift ou une Céline Dion, ça va être 300 personnes sur la route. C'est pas... Déjà, l'artiste fixe les prix de place, c'est pas le producteur. Tout l'argent ne va pas dans la poche du producteur, contrairement à ce que je peux entendre. Et tout l'argent ne va pas dans la poche de l'artiste non plus. Il y a tout un écosystème à maintenir autour et qui est très coûteux. On parle de... Il y a de la concurrence pour attirer les meilleurs techniciens. Il y a de la concurrence pour attirer les meilleurs set designers, etc. Donc tout ça, ça se paye, plus les voyages, etc. Donc les voyages, maintenant, on réduit ça avec ce phénomène de résidence, mais tout le reste reste quand même extrêmement cher.
Et puis, bon, l'économie de la musique a beaucoup changé ces derniers temps. On ne vend quasiment plus de disques. Est-ce que ça veut dire que ces artistes, Taylor Swift, Céline Dion, que sais-je, gagnent de l'argent uniquement avec les concerts? Comment ça se passe?
Alors, les très gros artistes gagnent encore de l'argent avec le streaming. Ça, c'est sûr. Il y a encore une catégorie d'artistes qui peuvent gagner leur vie grâce au streaming. Mais, ils sont une petite poignée. C'est vrai que la majorité des musiciens gagnent leur vie, sur la tournée, sur le merchandising.
Et donc, c'est pour ça que c'est particulièrement important d'avoir cela. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est compliqué pour les autres, les petits artistes? Comment gagnent-ils? Vous travaillez également sur beaucoup de festivals. Est-ce que un festival, par exemple, ça aide des artistes de moindre renommée à vivre?
C'est le but, oui, c'est de faire découvrir en attirant pour voir des têtes d'affiche et de faire découvrir des plus petits groupes. Souvent, moi, j'ai l'occasion de me faire plaisir à programmer des stars montantes. Et puis, des fois, on tape dans le mille en bookant un groupe qui est tout petit à l'époque où on le book, et au moment où arrive le festival, ce groupe a explosé, donc on s'y retrouve plutôt bien. Donc oui, les festivals permettent aussi l'émergence de ces nouveaux artistes. C'est tout un écosystème, hein, les petits clubs. Sans les petits clubs, il n'y a pas les artistes en aréna. Sans les festivals, il n'y a pas les artistes en aréna, etc., etc.
Oui, mais l'inquiétude de surcroît avec l'intelligence artificielle qui rajoute un risque supplémentaire, c'est que les plus petits groupes aient de plus en plus de mal à vivre.
Il est vraiment là le problème, c'est qu'on voit une polarisation, mais qui est à l'œuvre un peu partout dans toute la société. Hein. La musique n'en est pas exempte. Il y a les tout petits groupes qui buzzent un peu, il y a les énormes groupes, et puis il y a tout un pan au milieu en fait d'artistes qui ont beaucoup de mal à trouver leur place parce que écrasés par ce phénomène de gros groupes qui aspirent un peu toute la valeur du marché avec des prix de place hors du commun. Il y a plus de 23 concerts au Stade de France cet été avec des prix de place qui ne sont pour la majorité pas en dessous de 80 euros. Ça enlève vraiment énormément de valeur du marché et c'est beaucoup plus dur pour se développer et arriver à attirer du public sur d'autres segments de groupe.
Ah oui, ça c'est quelque chose de vraiment nouveau.
Oui, c'est nouveau.
Et alors, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est justement l'évolution du marché musical avec la diminution des ventes de disques?
Exactement. Oui, c'est ça. En gros, c'est encore une fois, la majorité des revenus se font sur la tournée et tout le monde est sur la route en même temps, ce qui crée un volume de tournée mais gigantesque. Et puis, on a une accélération du temps aussi. Aujourd'hui, une carrière d'artiste, elle va se faire sur 6 mois et non plus sur 3, 4 ou 5 albums. Donc, il y a toujours des nouveaux groupes qui arrivent, qui explosent et qui se base sur la tournée pour gagner leur vie. Donc on a un volume quand même sans précédent.
C'est marrant parce que moi je voyais aussi des vieux groupes.
Ah mais ça continue bien entendu.
Qui continuer. Et Céline Dion qui est immortelle bien entendu.
Immortelle.
Merci beaucoup Arnaud Merceman d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président d'AEG Presence France.
Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris. À partir de cet automne, au mois de septembre.
C'est officiel, Céline Dion est de retour sur scène. La chanteuse se produira pour une série unique de 10 concerts dans la plus grande salle intérieure d'Europe, Paris La Défense Arena. Ce sera à l'automne prochain, tous les mercredis et samedis du 12 septembre au 14 octobre.
Vous me manquez beaucoup. Je suis tellement contente. Je me sens bien, je me forte. Super excitée, évidemment, aussi un peu nerveuse, bien sûr.
L'ouverture de la billetterie se fera vendredi 10 avril à 10h sur le site CélineDion.com. Vous pouvez aussi vous inscrire aux préventes dès ce mardi 31 mars sur le même site. Partenaire officiel, RTL offrira des places à ses auditeurs en exclusivité et en avant-première avant l'ouverture officielle de la billetterie. Absente de la scène depuis plusieurs années à cause du syndrome de la personne raide, Céline Dion se veut, dans cette vidéo, rassurante.
Je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr.
Ces spectacles, c'est un cadeau que Céline Dion fait à ses fans ce lundi soir, jour de ses 58 ans, pour l'avoir soutenue.
Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Eh bien, bon anniversaire à moi-même. Et puis, je vous aime et j'espère à bientôt. Gros bisous. Bye bye. À bientôt. Ciao.
Heart fading black.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Bonjour, ici Peter Biraud, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CIUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.ciut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
De 11h à 13h, Potpourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Pourquoi les médias français sont-ils tombés si bas, au point de ne plus informer, mais de manipuler ? Pourquoi 90% des chaînes de télé radios et journaux appartiennent aujourd'hui à seulement 9 milliardaires. Qui décide vraiment de ce qu'on regarde, de ce qu'on croit et de ce qu'on doit penser? Pourquoi les chaînes publiques, censées garantir une information libre et neutre, sont aujourd'hui vidées de leur sens, pendant que les chaînes privées explosent et imposent leur vision du monde? Pourquoi chaque jour on voit les mêmes invités, les mêmes experts, répéter les mêmes discours? Pourquoi les sujets qui dérangent disparaissent des plateaux, pendant qu'on nous gave de divertissements inutiles? Et qui finance tout ça, vraiment? Pourquoi les grands fonds privés, les multinationales et même des lobbies investissent par des millions dans la presse et les médias? Est-ce encore de l'information ou juste une stratégie d'influence? Pourquoi ceux qui possèdent mal les médias sont aussi ceux qui contrôlent la politique et l'économie? Peut-on encore parler de liberté de la presse ou a-t-on basculé dans la propagande moderne? Et si le vrai danger c'était qu'on ne nous informe plus, mais qu'on nous formate?
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés. Une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
Pour célébrer comme il se doit nos 40 ans, je vous invite à découvrir d'autres super projections en mai, mais aussi tout au long de l'année, sur popourrichaud.com. Suivez Popourri Show et Ciné Franco tout au long de l'année sur Facebook pour des billets à gagner. Au grand plaisir de vous voir nombreux. Bon cinéma et passez un beau printemps.
Tous les 4 ans depuis 1989, les Jeux de la Francophonie rassemblent la jeunesse des 5 continents. Artistes et sportifs venus de tous les horizons, unis par une langue, un esprit, un élan commun.
Ici, les disciplines sportives et artistiques se mêlent. Chaque geste, chaque note, chaque mouvement célèbre la richesse et la diversité de la francophonie.
Des voix s'élèvent, des talents s'expriment, des cultures se rencontrent. Dans les stands comme sur scène, les jeunes artistes et athlètes partagent les mêmes valeurs. Respect, inclusion, amitié et dépassement de soi.
Ensemble, ils donnent vie à une scène d'expression unique, les Jeux de la Francophonie. Ces jeux sont le reflet d'un monde francophone engagé, tourné vers l'avenir, la durabilité et la paix. Un monde solidaire, vivant, créatif, en mouvement.
Les jeux, c'est bien plus qu'une compétition. C'est une expérience unique où chaque jeune francophone peut représenter son État ou son gouvernement et faire entendre sa voix.
À Erevan, en Arménie, en 2027, la francophonie vibrera à nouveau par ses talents artistiques et sportifs.
Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, quatrième secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagé dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique, et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Il s'appuie également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre, en français, l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités.
Sophie Franck, solidarité, action, innovation. Et oui, cette émission réalisée en partenariat avec Sophie Franck, qui signifie solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara. Sophie Franck est un organisme communautaire sans but lucratif, créé en 2007 par des femmes immigrantes originaires de diverses parties du monde. Sophie Franck a pour but d'accompagner les femmes et leurs familles dans leur processus d'intégration au Niagara en offrant des services dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Grâce à l'engagement de ses bénévoles, Sophie Franck conçoit, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins spécifiques et actuels de la communauté des immigrants francophones du Niagara. Tout au long de l'année, Sophie Franck vous invite à une multitude d'activités communautaires, culinaires, culturelles, littéraires et sportives. Sophie Franck, un organisme qui a déjà fait ses preuves, vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et sur son site web, sophiefranc.org, ou tout simplement sur popourichaud.com. Sophie Franck, solidarité, action, innovation, et fier partenaire de Popourichaud et CUT FM.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
Quoi de neuf ? Les cafés du Crépeau. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, ont le plaisir de vous présenter la 5e saison. Quoi de neuf, les cafés du CREFO. Avec la soif d'apprendre, un membre du CREFO s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette 5e saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast « Quoi de neuf, les cafés du Crépeau » et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/crefo ou tout simplement popourichaud.com.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
CIUT.FM appreciates your support and we need your financial donations.
Visit CIUT.FM and click donate now.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, revolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
À l'heure des grands bouleversements et de la mondialisation, et où l'intelligence artificielle s'intègre dans notre quotidien, il est urgent de promouvoir une compréhension citoyenne sur l'actualité nationale et internationale de la semaine. Bienvenue sur CUT-FM, votre radio à 100% financée par les auditeurs, les étudiants, les organismes communautaires francophones du Grand Toronto. À votre tour, devenez membre de notre radio. Faites un don en ligne à Popourri Show. Aidez-nous à garder l'antenne. Chaque dimanche, un tour d'horizon de l'actualité de notre planète. Des entretiens en tête-à-tête, sans concession, avec des artistes, des humoristes, des linguistes, des écrivains, des voix alternatives, des activistes, celles et ceux qui façonnent notre monde. Chaque semaine, nos chroniqueurs passent en revue les unes de la presse canadienne et étrangère, les podcasts, ainsi que les débats et les événements qui ont fait le buzz sur la toile. Popourri Show sur CUT 89.5 FM, en partenariat avec RFI France 24, vous accompagne depuis 40 ans. Merci d'être là.
Quand on parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup pensent que tout a commencé en février 2022 avec l'invasion russe. Mais la vérité, c'est que ce conflit a commencé bien avant. Bienvenue à Monde sous tension. Pendant des siècles, l'Ukraine a été étroitement liée à la Russie, bien que souvent, faut le dire, maltraitée. Même racine au niveau de la religion, même langue pour une partie de la population, même empire tsariste puis soviétique. L'Ukraine a fait partie de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques de 1922 à 1991. Mais en 1991, l'URSS s'effondre. Le coup fatidique, ça se passe le 1er décembre 1991, lorsque l'Ukraine déclare l'indépendance. Pour Moscou, c'est un véritable choc. Et pour Vladimir Poutine, c'est carrément un traumatisme. Vladimir Poutine occupait alors des fonctions au KGB et était conseiller du maire de Saint-Pétersbourg. Le KGB était le service de renseignement et de sécurité de l'Union soviétique de 1954 à 1991. Il s'occupait de l'espionnage et de la répression des opposants politiques. Et d'ailleurs, la carte d'identification de Vladimir Poutine, qu'on voit ici, de la police secrète de l'Allemagne de l'Est, a été retrouvée dans les archives allemandes lors des dernières années. En 2005, Vladimir Poutine a d'ailleurs critiqué la fin du régime dans une déclaration controversée qui a été diffusée notamment sur France 2 dans un bulletin télévisé.
C'est aujourd'hui que Vladimir Poutine prononçait son adresse annuelle à la nation avec une phrase très remarquée. La chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle passé, a-t-il indiqué.
Et le le 17 mai 2000, Vladimir Poutine a officiellement pris ses fonctions de président de la Fédération de la Russie. Et c'est justement dans les années 2000 qu'un vent de changement souffle sur l'Ukraine. Le pays hésite, soit de rester dans les girons russes ou se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. En 2008, l'OTAN annonce que l'Ukraine sera membre un jour, mais sans donner de calendrier précis. Et là, en 2013, tout explose. Le président ukrainien de l'époque, pro-russe, refuse de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Des manifestations s'organisent, des Ukrainiens dénoncent la situation. La guerre commence discrète, mais bien réelle. Elle fera plus de 14 000 morts en 8 ans. Et pendant ce temps, l'Ukraine se rapproche de plus en plus de l'Europe. Et ça déplaît beaucoup à Vladimir Poutine, qui s'inquiète plus particulièrement de l'entrée éventuelle de l'Ukraine au sein de l'OTAN.
Le président russe, Vladimir Poutine, vient d'annoncer en fait le début d'une opération militaire en Ukraine.
Le 24 février 2022, c'est le choc. La Russie envahit l'Ukraine. Poutine parle de dénazification, de protéger les Russes en Ukraine. Mais concrètement, c'est une attaque massive contre un pays souverain en contravention du droit international.
Quand c'est arrivé, là, on était tous sous le choc. Ça nous a pris quelques jours pour vraiment remonter la pente. Et puis après quelques jours, quand le choc est passé, ben, que la réalité vraiment était là, on a dû se rendre nécessaire.
Mais l'Ukraine ne tombe pas. Kiev résiste. Volodymyr Zelensky devient un symbole. Et le conflit devient une guerre moderne, tout en rappelant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des horreurs se produisent contre la population ukrainienne, notamment à Boutcha. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, ne s'impliquent pas directement sur le terrain, mais décident d'émettre des sanctions contre la Russie et d'augmenter massivement l'aide militaire à l'Ukraine.
Aujourd'hui, suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères.
Le Canada a mis en place l'un des ensembles de sanctions les plus vigoureux et avec ceux de nos alliés, le but est d'affaiblir et d'ébranler le régime russe et son économie.
Le Canada investit largement pour aider l'Ukraine. Depuis janvier 2022, le Canada s'est engagé à verser près de 360 millions de dollars en aide humanitaire pour faire face aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine et dans les pays voisins. Le Canada figure parmi les pays les plus généreux avec l'Ukraine et a offert plus de 5 milliards de dollars en aide économique et militaire depuis le début de l'offensive russe. La communauté ukrainienne montréalaise, que vous voyez à l'action, s'était aussi mobilisée pour aider la population de l'Ukraine.
Sur la motivation continue des Québécois et de la communauté. En ce moment, on a besoin de la nourriture. On apprend la nourriture non périssable, des produits d'hygiène, des médicaments. Tout ça, ça s'en va en Ukraine, mais on l'offre aussi aux réfugiés.
Un an après le début du conflit, mon collègue de l'époque à Nouveau Info, Louis-Philippe Bourdeau, était allé sur les lieux pour constater l'état de la situation.
On se dirige en ce moment vers Borodyanka. C'est une ville qui est environ à 50 km au nord de la capitale Kiev. C'est l'une des premières villes qui a été la cible des bombardements russes. Les civils là-bas qui ont vraiment vécu l'horreur.
Et maintenant, on parle de milliers de morts, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Des villes qui ont complètement été détruites, des millions de personnes déplacées et un monde divisé. Ce n'est pas juste une guerre entre deux pays. Une Ukraine libre, tournée vers l'Ouest, et une Russie qui veut garder son influence et redessiner les frontières à sa manière. Elle veut surtout que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Ce qui joue donc avec ce conflit aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de l'ordre mondial.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI, il est 9h à Washington, 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi avec le journal dans un instant. On parlera notamment de la situation concernant le détroit d'Ormuz et de pression de la Chine. Puis 20 minutes sur le continent américain avec les États-Unis à la une. À 6 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump impose ses candidats lors des primaires, notamment grâce à la question du redécoupage électoral. C'est un sujet très sensible. On l'évoquera avec notre invité. Les Républicains et les Démocrates se livrent depuis des mois à ce genre de pratique. Puis on fera le point sur le procès en cours à Miami concernant l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021. Avant de parler de l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, 178 ans après l'abolition de l'esclavage, le mouvement international pour les réparations vient demander des comptes aux lointains descendants des maîtres de 1848.
Dans une lettre ouverte, le mouvement interpelle les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants des propriétaires d'esclaves et les sommes de réparer. Précision à suivre de nos confrères de la Première Martinique.
À tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Anne Contner.
On reste aux États-Unis, pas pour parler politique, mais du procès en cours à Miami sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse il y a 5 ans. Le jury vient d'entamer ses délibérations après les plaidoiries en début de semaine. Achim Lippold, pour l'instant, c'est là que tout se joue, hein, parce que l'enquête qui est menée en Haïti, elle, n'avance pas du tout. Est-ce que ce procès-là a permis d'en savoir plus sur les motivations des assassins ?
Pas vraiment. Ceux qui espéraient comprendre ce qui s'est joué dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 resteront sur leur faim. Cette nuit-là, rappelons-le, le président haïtien Jovenel Moïse est abattu chez lui à Pétionville par un commando armé composé notamment d'anciens militaires colombiens. En réalité, ce procès américain ne juge qu'une partie de l'affaire. Sur le banc des accusés, 4 hommes installés en Floride liés à une société de sécurité privée. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation et au financement d'un complot qui visait d'abord à enlever le président, selon les procureurs. Le projet aurait ensuite basculé vers un assassinat. Ce que contestent les accusés. Leurs avocats défendent une toute autre version. Selon eux, le président aurait été tué par ses propres gardes et les mercenaires colombiens intervenaient dans le cadre d'une opération légale.
Alors, est-ce qu'on sait au moins qui est derrière ce crime? Qui a donné l'ordre?
Non, ce procès n'a pas permis d'identifier clairement le cerveau de l'opération, mais un nom revient et est revenu sans cesse, selon Jake Johnson, politologue spécialiste d'Haïti et qui a suivi les audiences.
L'un des principaux enseignements qu'on peut tirer du procès, c'est qu'on a eu un flux constant de témoins, des témoins coopérants, des personnes présentées par l'accusation. Et quand il s'agit de savoir qui était le cerveau de cette opération, presque tout le monde a pointé du doigt quelqu'un qui n'est pas jugé en Floride. Il s'agit de Joseph Félix Badiou, un ancien responsable gouvernemental qui est détenu en Haïti et qui n'a jamais été interrogé par le FBI ou le ministère de la Justice. Je pense que cela montre vraiment que ce procès, ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est qu'une partie. Donc, ce qu'on peut dire pour résumer les audiences, c'est qu'on est loin d'avoir assisté à l'établissement de la vérité. Et on ne sait rien, en fait, de la chaîne des responsabilités. C'est une étape dans ce qui devrait être un processus beaucoup plus large et beaucoup plus long.
Et le flou autour du cerveau de l'opération se retrouve aussi à rime sur le plan financier.
Oui, exactement. Selon un expert comptable du FBI qui a témoigné lors de ce procès, 343 000 dollars auraient été déboursés pour ce complot, une somme jugée assez faible par Jake Johnston.
On observe ce qui ressemble à une vaste conspiration qui a forcément impliqué un certain niveau élevé d'intervention pour que des mercenaires étrangers puissent entrer dans la résidence d'un président sans opposition et le tuer. Cela a dû quand même être une opération assez coûteuse et pourtant, le seul aperçu des finances que nous avons eu se limite à quelques centaines de milliers de dollars. Et on peut voir où la majeure partie de cet argent est allée pour des choses qui n'étaient même pas vraiment directement liées à l'assassinat lui-même, comme les frais d'hôtel ou des billets d'avion. Donc même sur le financement, il y a plus de questions que de réponses. Les procureurs ont essayé de documenter comment les accusés ont participé à cette conspiration, mais encore une fois, cela ne représente qu'une partie de la conspiration.
Pas évident donc pour le jury de trancher.
Oui, exactement. Elle doit choisir entre deux récits diamétralement opposés. Va-t-il suivre l'accusation qui estime donc que les indices suffisent à établir un complot visant l'assassinat de Jovenel Moïse ou la défense qui insiste, elle, sur un dossier fragmentaire, des informations partielles et de nombreuses zones d'ombre incompatible, selon elle, avec une responsabilité claire et partagée.
Alors, on verra ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci, Arimédia.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler de cette demande du mouvement international pour les réparations, 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Il demande des comptes aux lointains, très lointains descendants des maîtres de 1848.
Oui, dans une lettre ouverte, le mouvement interpelle, parfois nommément, les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants des propriétaires d'esclaves de 1848 et les sommes, c'est le terme employé, de réparer. Denis Adnelouvet, la première Martinique.
Fort de la résolution de l'ONU qui réclame des réparations pour les torts historiques de l'esclavage, le MIR s'adresse directement aux descendants des propriétaires terriens de l'époque. Dans un courrier qualifié de sommation, le MIR interpelle les Blancs Pays et Béquets de Martinique dans leur ensemble, mais aussi nommément Bernard Rayotte et le groupe éponyme. L'organisation présidée par Garcin Malsa rappelle qu'à l'annonce de la seconde abolition, les propriétaires d'esclaves avaient négocié ferme afin d'obtenir une réparation pécuniaire. C'était chose faite le 30 avril 1849 avec le vote d'une loi d'indemnisation qui octroyait aux anciens propriétaires d'esclaves des capitaux ainsi qu'une rente annuelle sur 20 ans. Pour la Martinique sont mentionnées la famille Ayotte qui, je cite, contrôle aujourd'hui une part déterminante de l'économie locale. Le puissant groupe GBA serait, dit-il, le MIR, l'héritier direct de l'accumulation coloniale et de l'indemnité de 1849. 14 autres familles sont citées dans ce texte qui remet en cause la légitimité des indemnités accordées en 1849. Pour le MIR, l'heure de la réparation est venue et le mouvement s'estime du coup légitime à sommer les héritiers d'y faire droit selon des modalités à définir par les deux parties. Le MIR qui insiste aussi sur le fait que ce serait la seule voie possible pour parvenir à une difficile réconciliation. Fin de citation.
On reste en Martinique, mais avec une actualité guadeloupéenne, ce procès un peu particulier, vous allez comprendre, censé s'ouvrir ce matin à Fort-de-France. Explication Eric Stimfling.
C'est un dossier a priori banal, celui d'une secrétaire administrative qui attaque son employeur devant le Conseil des Prud'hommes pour faire reconnaître des faits de harcèlement moral, le caractère vexatoire de son licenciement et accessoirement le paiement de la prime Bino, et ce, après 15 ans de bons et loyaux services. Là où le dossier devient singulier, c'est que l'employeur en question est l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, le premier syndicat de l'archipel, toujours prompt à dénoncer les patrons forcément voyous et la justice évidemment coloniale, sauf quand il s'agit du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, où l'UGTG est largement représenté au titre du Collège des Salariés. De fait, après deux constats de carence, aucun juge prud'homal ne voulant siéger, l'avocate de Manuel Accollé a été contrainte de saisir le premier président de la Cour d'appel qui, le 5 février 2025, a ordonné le dépaysement du dossier devant le Conseil des prud'hommes de la Martinique. Là, nouveau revers, l'UGTG a obtenu que l'examen au fond soit renvoyé à 4 reprises entre le 5 mai 2025 et le 4 février 2026. Finalement, le dossier devrait être plaidé ce matin à Fort-de-France. L'UGTG, qui se dit victime d'une tentative de diabolisation, réclame à son ex-salarié 5 000 euros au titre d'une procédure abusive, 15 000 euros au titre de son atteinte à l'image et 5 000 euros au titre des frais d'avocat.
Affaire à suivre. Bon après-midi Anne, à demain.
Bon après-midi Benoît Ferrand. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On vous retrouve tous les deux demain à partir de 11h temps universel. Et tout de suite sur RFI de vive voix avec Pascal Paradou et son invité, l'auteur Aurélien Blanchard. Il signe un roman publié aux éditions Christian Bourgeois. Ça s'appelle Les chemins écarquillés. C'est un roman apocalyptique. Très bonne journée à tous quand même.
RFI, la sélection du mois.
Moissi Moindo. J Balvin. Ryan Castro. Et DJ Snake.
Tonto, Mika Tonto.
RFI Musique.
Je voudrais une cousson.
Pourquoi RFI dit ça ? Posez vos questions à Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Nous pouvons vous annoncer fièrement que le lauréat du prix Découverte RFI 2026 est l'artiste béninois nommé Opa.
Opa! Opa, donc, applaudissements, roulement de tambour, tout ce que vous voulez. Bonsoir, Opa, félicitations.
Bonsoir.
Alors, une première réaction, Opa, je sens qu'il y a de l'émotion là. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment?
Je suis submergé. C'est incroyable. C'était vraiment une période vraiment éprouvante depuis l'annonce de ma nomination. Comment il fallait faire la campagne, mobiliser les gens autour. Je suis redécouvert, donc, je sais pas, je suis submergé. Désolé.
Oui, vous êtes submergé. On comprend bien votre émotion. Même si cela, en tant que président du jury, qu'est-ce qui a le plus séduit le jury chez Opa?
Il a autant de qualités que beaucoup de gens qui étaient là à la dernière sélection, mais il a apporté quelque chose en plus, justement, c'est cette mobilisation qu'il a pu avoir, la présentation qu'il a faite de son personnage. Et puis, à un moment donné, le choix démocratique de chacun des membres du jury fait qu'il a gagné réellement en avance sur plusieurs thèmes de sélection.
Queen Rima, vous avez remporté le prix l'an dernier. Vous voulez dire un mot à Opa?
Opa, félicitations, oui. Je sais que c'est pas facile.
Merci beaucoup, Queen Rima.
Surtout
merci
quand beaucoup. On doit attendre les résultats. J'ai passé des nuits blanches pour ça. Ouais. Félicitations, tu as donné le meilleur
merci
de toi-même.
Beaucoup,
vas-y,
merci
je
beaucoup.
Te remets ça.
C'est pas ici. I got no you when you need to go away.
Opa.
Fuck off, Cuban, no more. J'ai plus d'économie. Tende, Dios, chérie. I am a homie, ni Konami. When I you, I just want. When you did, why no give me? This kind of way you give me. So back, I know let flow me. I don't do it.
Bebo, oh, 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 don't stop, I know, Kuhani, feeling
tu el canon chino me ana lo vi te te no con mi monte te te y no more problema
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Curated by the people, for the people. CIUT 89.5 FM is the sound of your city.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
TV5 Monde permet d'entendre la langue française partout sur la planète, mais elle n'est pas la seule à faire le travail.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous.
Bonjour et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Bienvenue dans
de l'information au divertissement, les écrans de la francophonie viennent de nombreux horizons, ont différents accents, mais ils fonctionnent ensemble. Depuis 2016, les médias francophones publics rassemblent 14 marques de radio et télévision, des Françaises, des Belges, des Suisses, des Canadiennes et une monégasque. L'idée est simple, puisque l'on parle la même langue et que l'on partage quelques valeurs essentielles, il serait possible de penser et produire ensemble. Concrètement, entre deux capitales, deux télés, membres de cette association, il est donc possible de créer des événements, démonstrations.
Aujourd'hui, grande émission spéciale consacrée à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences au Canada, en Belgique, en Suisse et bien sûr en France. Une grande émission préparée avec nos partenaires francophones, Radio-Canada, France Télévisions, RTS, France 24 et RTBF.
Autre exemple de collaboration, le magazine Objectif Monde.
Et avec nous en duplex depuis Montréal, Gaëlle Lucia Berdou, journaliste à Radio-Canada. Merci d'être avec nous.
L'émission d'enquête et d'investigation est produite en collaboration avec ses chaînes francophones, notamment la radio-télévision suisse. Tous membres de cette association des médias francophones publics.
C'est un formidable réseau, hein, professionnel, de journalistes, de moyens de production aussi, puisqu'on est tous connectés, aussi de production, radio, télévision, digitale. Donc c'est aussi l'existence en fait patente de la francophonie en images et en son. Donc c'est très puissant en fait.
20 000 journalistes, une vingtaine de radios, autant de télévisions, des applis, des sites et un dialogue permanent. Les soubresauts et les désordres du monde doivent compter avec le poids des médias francophones publics. Et donc, joyeux anniversaire.
We the people are so powerful.
L'état des dégâts des EBA sont débat ni combat. L'apparition est prévue pour mai 2026.
We the people can change the world. We the people have had enough.
L'état des dégâts, des ébats sans débat ni combat. Franchement, ça, ça ne laisse pas indifférent.
Non, effectivement, attache ta tuque, ça va fesser dans le dos.
L'état des débats, des ébats sans débat ni combat, c'est le prochain livre de notre ami infréquentable Frédéric Boiron. Eh oui, les collaborateurs de Popourri Show, à son temps libre et à sa guise. Pour tout savoir, madame, monsieur, et si cela vous tente, frédéricboiron.com, frédéricboiron.com, prochain livre, l'état des débats. Des ébats sans débat, ni combat. À retrouver sur popourrichaud.com.
Tout commence par un geste, une idée, une lumière, un rêve qui prend forme. Les Jeux de la Francophonie, c'est une scène ouverte à la jeunesse créative des 5 continents. Ici, chaque voix, chaque regard, chaque mouvement parle la même langue, celle de l'art.
Les présélections culturelles nationales sont ouvertes et se poursuivent jusqu'en février 2026.
C'est la porte d'entrée vers les prochains Jeux de la Francophonie.
Participer aux Jeux, c'est vivre une aventure humaine et artistique unique. C'est créer, partager et faire rayonner ton talent dans toute la francophonie.
Il s'agit d'un concours international
accessible à tous les jeunes artistes francophones âgés de 18 à 35 ans. Renseigne-toi sur le site de l'OIF afin de savoir si ton état ou gouvernement en est bien membre. Pour connaître les modalités de candidature, rapproche-toi du ministère de la Culture, de la Francophonie ou de la Jeunesse de ton pays.
Chaque candidature sera examinée par un jury national pour présélectionner celles et ceux qui auront une chance de représenter leur état ou gouvernement. Pose ta candidature pour avoir une chance d'y participer.
Pour plus d'informations, consulte notre site internet
www.jeux.francophonie.org.
Rendez-vous à Erevan, en Arménie, du 23 juillet au 1er août 2027.
Tous les 4 ans depuis 1989, les Jeux de la Francophonie rassemblent la jeunesse des 5 continents. Artistes et sportifs venus de tous les horizons, unis par une langue, un esprit, un élan commun.
Ici, les disciplines sportives et artistiques se mêlent. Chaque geste, chaque note, chaque mouvement célèbre la richesse et la diversité de la francophonie.
Des voix s'élèvent, des talents s'expriment, des cultures se rencontrent. Dans les stands comme sur scène, les jeunes artistes et athlètes partagent les mêmes valeurs. Respect, inclusion, amitié et dépassement de soi.
Ensemble, ils donnent vie à une scène d'expression unique, les Jeux de la Francophonie. Ces Jeux sont le reflet d'un monde francophone engagé, tourné vers l'avenir, la durabilité et la paix. Un monde solidaire, vivant, créatif, en mouvement.
Les Jeux, c'est bien plus qu'une compétition. C'est une expérience unique où chaque jeune francophone peut représenter son état ou son gouvernement et faire entendre sa voix.
À Erevan, en Arménie, en 2027, la francophonie vibrera à nouveau par ses talents artistiques et sportifs.
Somos México.
We are Mexico.
Mexico!
We are Canada.
Nous sommes Canada.
We are Canada.
We are the U.S.
The U.S.
The U.S.
Bonjour, Kenoya.
Welcome, everyone.
We nurture the game.
We dream big.
We are dedicated to the game.
Nous valorisons la diversité.
We embrace the future.
Honramos nuestras tradiciones.
Celebramos al fútbol.
We welcome the world. The countdown is on.
For us to unite as one.
Together. Together.
Ensemble.
Together.
Juntos. Juntos.
Somos 26.
26. We are 26.
Nous sommes 26.
We are 26.
26.
We are 26.
En courant sans ton rêve et on y croit. C'est la coupe du monde, on écrit notre histoire.
Hey, 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 hey
vient de loin, on traverse les mers pour un moment pour briser les frontières. Des millions de voix résonnent en lumière, le stade s'illumine, tout devient légendaire. Des pas qui frappent un rythme, un pays. La terre respire au son de nos mélodies. L'espoir s'élève, dépasse les défis. Aujourd'hui c'est nous, demain c'est toute la vie. Quand nos voix s'élèvent, tous s'assemble. Quand le ballon roule, le monde retient son souffle. Chaque seconde vibre, chaque victoire nous pousse. Le rêve des enfants devient lumière douce. Et l'univers s'unit sous le même pouls. Les tambours cognent comme les cœurs qui battent. Les peuples dansent, l'émotion éclate. C'est plus qu'un jeu, c'est une promesse qui trace. Sous chaque drapeau, l'humanité s'enlace.
Place à l'humour, car l'humour, c'est du sérieux. Bon anniversaire à CUTFM et bon printemps à vous, chères auditrices, auditeurs. À très bientôt sur CUTFM.
Oui.
Allô?
Oui, salut ma grande, tu passes Jackie?
Ah, Jackie n'est pas là.
Ah, où est-il encore?
Il travaille.
Ben oui.
C'est de la part de qui?
C'est Bernard, l'appareil.
Bernard.
Oui, Bernard Ledoux.
Bernard Ledoux?
Oui.
Je suis désolée, je ne vois pas. Hein.
Bon, c'est pas grave. Oui. Ça va t'en venir. Je te passe sa marraine. Hein.
D'accord.
Tata. C'est qui, l'appareil?
C'est la femme à Jackie.
Oui, mais son prénom?
Reine.
Tata Germaine. C'est Reine, hein?
Ah, merci. Allô?
Oui.
Bonjour, ma grande.
Ah oui, bonjour, tante.
Ça va bien?
Ben, moi, ça va. Et vous?
Mais ça va bien, enfin. T'as su ce qui m'était arrivé, j'imagine?
Ben, oui, bien sûr. Ça, malheureusement.
Ah, hein. Qu'est-ce que tu veux?
Ah oui.
J'ai reçu ta petite carte.
La petite carte?
Il y avait une petite carte, meilleur vœu de rétablissement.
Ah non.
Ah bon, tu m'as pas envoyé de carte?
Non, je... Non.
Reine, elle ne m'a pas envoyé de carte.
Enfin, ben écoutez, je vais vous donner votre bonjour à Jackie.
Oui.
Hein? Et puis je vous dis à la prochaine.
Eh ben, ce soir.
Parce que... Ah.
Oui, parce qu'on vient dîner chez vous ce soir.
Eh ben, c'est que ce soir, ça c'est embêtant, on n'est pas là.
Ah bon?
Ben non, justement, on va prendre l'apéro, justement, là, dans le patelin à côté, chez des amis.
Chez qui vous allez?
Oh là là, c'est chez la famille, vous les connaissez pas.
Comment qu'ils s'appellent, dis-moi?
Vous les connaissez pas, ces gens-là.
Comment qu'ils s'appellent?
Ils s'appellent l'évêque.
L'évêque?
Oui.
Oh, bah, tu paries que je les connais.
Oh, ça m'étonnerait.
Ah,
hein.
Oh, bah, si, alors. Ah, oh, bah, dis donc, à quelle heure vous y allez?
Ben, écoutez, hein, nous, quand on va, on sait pas jamais à l'eau où on va, et on sait jamais à l'eau où
oui,
on arrive.
Oui, enfin,
hein.
vers 7 heures.
Oh, ce sera peut-être plutôt après, hein.
Bernard, vers 7 heures, est-ce que tu penses qu'on peut aller chez l'évêque? Ben, Jackie et Reine, ils y vont pour l'apéritif, hein, tu vas
oui,
pour l'apéritif.
Ben, normalement, c'est pour l'apéritif, j'espère que ce sera seulement pour l'apéritif, hein.
Ah oui, parce que s'ils nous gardent à dîner, c'est embêtant, moi, j'aurais préféré vous voir, évidemment, chez vous, à la maison, hein.
Ben, oui, bien sûr, hein.
Mais écoute, tu sais ce qu'on fait?
Oui.
On va venir vous chercher, et comme ça, on ira avec vous chez eux.
Ben, si on est là.
Ma petite reine, pour être sûre de ne pas te rater.
Mmh.
On va venir tout de suite pour te rendre une petite visite.
Ben, tout de suite, c'est que je vais m'en aller, c'est ça le problème.
Oh, ben, on est là dans 10 minutes, nous, hein.
Ouf, je vous dis que ça fait quand même assez loin.
Oh oui, mais tu sais, c'est jamais assez loin quand on est de la famille.
Hein? Ah oui, bien sûr.
Il y a des temps que la famille se retrouve.
Oui.
Surtout qu'on ne savait pas où dormir ce soir, figure-toi.
Ah bon?
Oui. Alors, ça tombe bien que tu sois là avec Jackie.
Ah ben, c'est que la place chez la maison dure, hein.
Comment?
C'est dur à la maison en ce moment pour avoir de la place, hein, pour dormir, hein, parce que chez la famille qui est là et tout ça.
Écoute.
Hein,
moi...
Si on se voit, tant mieux, si on ne se voit pas, ben, ça pour une autre fois. Hein?
Reine. J'ai la très légère impression, mais tu vas me dire si je me trompe. Hein.
Mmh.
Moi, ça m'étonnerait parce que je connais bien mon petit Jackie.
Oui.
J'ai la très petite impression
que
tu veux pas me voir.
Non, ah non, pas du tout. Au contraire, tante, je voudrais bien vous voir.
Ah, bon, quand même.
Ah oui, bien sûr.
Répète, j'ai pas compris.
Eh ben, c'est que je sois assez embêtant, mais voilà.
Bordel. 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 Bordel, ouh, bordel, ouh, bordel, ouh, bordel, ouh, bordel.
Il répond au nom de Bordel, sur les cheveux il met de la gomine. Il a un joli sourire comme ça, on dirait une publicité pour Signal. Il répond au nom de Bordel, c'est le king de TikTok, c'est le boss d'Insta. Pour s'entraîner à paraître sympa, bien qu'au coaching c'est lui à côté un bras. FNORN, c'est du pareil au même, de Jean-Marie à Marine, toujours la même rengaine. Hier ils étaient au nid, maintenant ils font des petits. D'Éric Ciotti à Retailleau, galvanisé, propulsé par Bolloré, c'est une bande organisée qu'il faudrait canaliser, qui braque les caisses de l'UE, tout en critiquant l'UE. Faut croire qu'il nous mène en bateau, mais quand je le vois flamber comme ça, j'aimerais retirer la chaise sur laquelle il s'assoit. Rassure-toi, il répond au nom de Bardel. Sur CNews ou sur Europe 1, c'est le roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les médias pour qu'on en soit arrivé à ce point-là? La réforme des retraites, pour lui c'était prise de tête. D'abord il veut l'abroger, puis il veut plus l'abroger, puis il veut la reporter et finalement l'abroger. Je crois qu'ils sont dedans son cerveau. Socialement c'est l'arnaque, dès que le beau vernis craque, on voit que dans extrême droite, il y a extrême et puis à droite. Limiter le RSA, privatiser les médias, je crois pas que ça aide le populo. Mais quand je le vois chez Cultura, j'ai comme une envie de vomir qui monte en moi. Je me sens au nom de Bardel, on aimerait lui dire faut que tu partes là. Tu fais que mettre le bordel là. À part pour les genoux, y a pas besoin de toi. Il répond au nom de Bardel, mais bien sûr que non, il n'est pas candidat. Tant que Marine survit en tout cas, mais reposez-lui la question dans 6 mois. Il part en TGV, rencontrer les vrais Français qui sont pas déconnectés et surtout pas trop basanés. De Fréjus à Perpignan, on ne voit que lui, mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Sur les plateaux télé, il récite son couplet. On le voit qu'il se fait aveugler dès qu'il se fait bousculer. C'est qu'on l'a plutôt habitué à se faire dorloter de CNews jusqu'à LCI. Mais quand je le vois se planter comme ça, je me dis qu'on est quand même tombé bien bas. Au nom de Bardel, un jour il aime Trump, le lendemain il aime pas. Cherche les brebis galeuses dans ses candidats. Y a encore un petit peu de boulot, je crois. Il répond au nom de Bardel. Au moins je crois que je vais m'arrêter là. De toute façon j'ai plus de rime en A et j'en peux plus de chanter avec cette voix. On va se taper ce mec, bête comme c'est Yep, en 2027, si rien ne l'arrête. Et de Marine c'est le yinche, et de Marine c'est le yinche, et c'est dur les rimes en hinche, et dur les rimes en hinche, et allez ce soir on gâche, et pas vrai les aminches, et même si j'ai mal à la hinche, et allez j'arrête ces hanches,
et ça me prend la tête, et faut qu'on arrête, et cette goguette, et qu'on n'entende plus parler de Bardella.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de cette tournée magique intercontinentale. Je suis toujours sur la planète Terre, mais pas à Toronto. Je dis merci à tous les DJs, tous les participants de cette émission et surtout nos médias partenaires. On se revoit cette semaine et dimanche prochain. Portez-vous bien, que la force soit avec vous. Et à très bientôt. Merci à DJ Devera en direct à Toronto. Ciao!
Hélène Monsé-Exegoshens est représentant pour DJ Andy.
Poser question, baby. Pour faire qu'on aime, je faire avant. Pourquoi oui, j'aimerais me perdre dans ma plan. Même si mon côté me parle, il faut toujours présent. Pas qui toi pour être comme si bien et sans. Ouais, pas douter, même si me prend au trafic là. Pas privé à destination, même si le accompagner ma tout merci. Ouais, pas tout.